Oh, à Paris, tout de suite, le sport. Bonjour Antoine Grenier.
Bonjour Andréane.
En football, c'est parti pour la phase de groupe de la Ligue africaine des champions. 8 rencontres au programme ce mardi.
Le tenant du titre en lice pour sa propre succession, l'Al Ahly du Caire affronte le Stade d'Abidjan à 16h TU. Un peu avant, à 13h temps universel, le TP Mazembe accueille le Mouloudia d'Alger. Les Young Africans de Tanzanie reçoivent la Lila Lomdourman. À 16h TU, qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de groupe, le club congolais de l'AS Manima Union se déplace sur le terrain des Mamelodi Sundowns, demi-finaliste la saison dernière. Papi Kimoto, le coach de Maniema Union, se montre confiant.
On a eu suffisamment de temps pour voir l'équipe des Mamelodi. On a toutes les informations possibles et on a travaillé pour. Et en même temps, c'est qu'on joue à l'extérieur, il faut être prudent. Mais on va tout donner, les joueurs sont libérés de toute façon dans cette poule. On a des anciens vainqueurs de la Coupe d'Afrique, je pense tous les trois, sauf nous. On va jouer sans pression. En même temps, nous, on va s'appuyer sur nos forces, ce qui fait notre équipe, notre collectif. Le match va être très, très compliqué pour nous. Nous aussi, on veut les gêner au maximum pour essayer d'avoir un bon résultat ici parce qu'on a l'ambition et en même temps, on est libéré. On n'a pas de pression.
Papi Kimoto avec Olga Massangou. Dans le même groupe, le B, duel marocain au programme entre le Raja Casablanca et le Far de Rabat.
Dans le groupe D, baptême du feu de haute volée pour le Djoliba de Bamako.
Les Maliens en déplacement à 19h TU sur la pelouse de l'Espérance Tunis, 4 fois champion d'Afrique. Pour le Djoliba, novice à ce niveau, c'est un sacré défi, surtout dans un groupe où figurent également les Angolais de Sagrada Esperanza et les Égyptiens de Pyramids. Mais pas question de faire de la figuration, prévient le défenseur du Djoliba, Ousmane Diallo.
Voilà, les 10 équipes, ils ont les informations. J'ai regardé les derniers matchs d'Espérance de Tunis. Voilà, on a des idées sur eux, comme eux aussi nous ont des idées sur nous. Mais voilà, comme le coach vient de le dire, pour l'instant, on ne va pas venir pour essayer de bloquer ou quoi que ce soit. En l'entame du match, on verra bien comment s'adapter à l'adversaire. Le Djoliba, c'est une grande équipe en Afrique. Même si c'est la première fois qu'on rentre dans la phase des poules de la Ligue des Champions. Voilà, et on ne va pas s'y sous-estimer. Et on va respecter l'adversaire et puis on verra bien.
Ousmane Diallo avec Edige Beniani, Espérance Djoliba, coup d'envoi 19h TU à la même heure que CR Belouizdad, Orlando Pirates dans le groupe C.
Et de Ligue des Champions, il en est également question en Europe, 5e journée de la phase de Ligue.
Avec dès 17h45 temps universel, l'AC Milan du Nigérian Samuel Chukwueze qui va affronter le Slovan Bratislava, tandis que le Sparta Prague accueille l'Atlético de Madrid. À 20h TU, Barcelone reçoit les surprenants Brestois, 4e du classement. Toujours côté club français, le PSG, 25e et virtuellement éliminé, n'aura pas le droit à l'erreur lors de son déplacement sur le terrain du Bayern Munich. Également à l'affiche, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzbourg, Inter Milan, RB Leipzig, Manchester City Feyenoord, Sporting Arsenal et Young Boys Atlanta.
Enfin en France, grave blessure confirmée pour Alidou Seydou.
Le défenseur international ghanéen du Stade Rennais sorti à la 18e minute de la rencontre de Ligue 1 face à Lille dimanche. Verdict, rupture du ligament croisé du genou gauche. Seydou devrait être indisponible plusieurs mois. Il pourrait même ne plus rejouer de toute la saison.
Antoine Grenier pour le sport, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Israël doit se prononcer aujourd'hui sur un cessez-le-feu dans la guerre que livre l'État hébreu au Hezbollah au Liban. Pour les États-Unis, un accord est proche. Dans le même temps, de nouveaux raids aériens ont visé le Liban hier et ont fait au moins 31 morts. Et la télévision d'État syrienne a évoqué des frappes hier sur plusieurs ponts dans la région de Qusair en Syrie. Donald Trump a confirmé hier que ses premières mesures économiques après son investiture en janvier seront d'augmenter les droits de douane sur les produits notamment venant de Chine, plus 10%, a indiqué le président américain élu. Donald Trump qui a vu hier l'abandon des poursuites contre lui pour tentative illégale d'inverser les résultats de la présidentielle américaine en 2020. En France, de nouvelles actions des agriculteurs ce mardi, toujours dans le cadre des négociations sur le traité de libre-échange entre l'UE et les pays du Mercosur. C'est aujourd'hui que l'Assemblée nationale française doit débattre et voter concernant ce traité. Et puis en France, toujours, on va continuer aujourd'hui de connaître les réquisitions dans le cadre du procès de Mazan. Hier, des peines de 4 à 20 ans de réclusion ont été annoncées pour 21 des accusés sur 51. La peine maximale contre Dominique Pellicot, jugé pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme par des dizaines d'hommes pendant 10 ans. On en parlait hier déjà, cette question brûlante en République démocratique du Congo au sein de la société et de la sphère politique. Faut-il changer la constitution ? Ce lundi, sur notre antenne, Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi, nous expliquait pourquoi il est contre. Ce matin, place au pour par la voix du député national et secrétaire général du parti au pouvoir, l'UDPS, Augustin Kabouya, en ligne de Kinshasa. Il répond à Christophe Boisbouvier.
Augustin Kabouya Chilumba, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi dites-vous que la constitution de 2006 n'est plus adaptée aux réalités congolaises d'aujourd'hui ?
Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi, quand nous, Congolais, nous voulons réfléchir sur notre propre loi fondamentale, ça suscite les débats. Pas plus tard qu'au Gabon, récemment, ils ont changé leur constitution. Ça n'a pas suscité des réactions comme nous les vivons dans notre pays. Est-ce que c'est interdit à un peuple de réfléchir sur sa propre constitution ? D'ailleurs, la constitution dont nous discutons aujourd'hui, ce n'est pas la même constitution votée au référendum de 2005. La constitution de 2005 avait des tours pour les élections présidentielles, mais aujourd'hui, comment nous sommes arrivés à l'élection à un seul tour ? C'est pour vous dire qu'il y a eu des retouches sur cette constitution. C'est pourquoi nous disons, nous devons revisiter cette constitution, nous devons même la changer, puisqu'il y a beaucoup d'anomalies qui ne facilitent pas la tâche au bon fonctionnement des institutions. Voilà.
L'un des articles les plus en vue de la constitution actuelle, c'est bien sûr l'article 220, qui dit que le président est élu pour 5 ans et qu'il ne peut faire que 2 mandats maximum. Est-ce que vous souhaitez une révision de cet article ou pas ?
Nous ne sommes pas encore là. Ça, ce n'est que le procès d'intention que les opposants, entre guillemets, sont en train de prêter. Nulle part dans les interventions du président de la République, il a fait allusion à la modification de l'article 220.
Alors, pour réformer la loi fondamentale, il y a 2 options. Soit réviser la constitution actuelle, soit changer de constitution. Quelle est votre préférence ?
Non, moi, je m'inscris dans la logique du chef de l'État exprimé le 23 octobre. Il avait parlé de révision ou soit de changement.
Alors justement, le 23 octobre, à Kisangani, le président a annoncé qu'il allait désigner une commission nationale, je cite, chargée d'élaborer une constitution adaptée à nos réalités congolaises. Est-ce que ce n'est pas le signe que vous allez changer de constitution ?
Nous ne sommes pas encore arrivés à ce stade, M. Boisbouvier. Ne cherchez pas à perdre au chef de l'État ce qu'il n'a pas dit, ou bien prêter des intentions de ce qu'il n'a pas.
Pour réformer la Constitution, il faut passer soit par un référendum, soit par un vote favorable des 3/5 du Parlement. Quelle est pour vous la meilleure option ?
Bon, moi, je préfère que le peuple règle cette affaire.
Donc par référendum ?
C'est prévu par l'article 218 de notre Constitution.
Alors, depuis la semaine dernière, l'opposition se mobilise contre votre projet et elle affirme que vous préparez un coup d'État constitutionnel.
Donc ça, c'est un procès d'intention. La démarche de l'opposition est purement démocratique et constitutionnelle. Nous sommes tout à fait d'accord avec leur démarche, mais là où je ne partage pas leur point de vue, c'est quand ils utilisent les mensonges pour faire passer leur point de vue.
Alors, l'opposition précise que, pour elle, votre principal objectif, c'est de permettre au président Tshisekedi de briguer un 3e mandat en 2028.
En 2011, Joseph Kabila avait modifié la constitution où nous avons quitté l'élection présidentielle de 2 tours à 1 seul tour. Est-ce qu'aujourd'hui c'est Kabila qui est au pouvoir ? La réponse est non. Ce n'est que des mensonges montés de toutes pièces, voilà.
Mais si vous changez de constitution, les compteurs seront remis automatiquement à 0 et le président sortant pourra à nouveau se présenter en 2028.
Mais si la population décide, qui suis-je pour s'opposer à la volonté populaire ? Laissons les peuples nous départager dans cette question. La démarche de l'opposition, ils ont dit qu'ils vont mobiliser la population et nous aussi, nous disons, nous allons mobiliser cette même population pour nous départager.
Dans l'Union sacrée, il y a aujourd'hui au moins 3 acteurs politiques, Vital Kamerhe, Modeste Baati et Jean-Pierre Bemba, qui espèrent que le chef de l'État se retirera en 2028 et qu'ils pourront avoir à ce moment-là leur chance pour accéder à la magistrature suprême. Est-ce que vous ne craignez pas que ces 3 leaders ne quittent votre coalition si demain l'horizon devient bouché pour eux?
Mais écoutez, depuis que nous avons commencé, vous insistez toujours sur le 3e mandat. Est-ce que vous étiez avec le président de la République? Non, il s'est confié à vous ou à tous ceux qui parlent qu'il a l'intention de briguer un 3e mandat. Non, tout ça sont des procès d'intention. Puisqu'avant de parler sur un sujet, il faut entrer en contact avec la personne concernée, qu'il vous dise si réellement il a ses intentions. Je fréquente le président de la République, il nous a jamais dit qu'il va briguer un troisième mandat. Mais pourquoi tous ces débats-là ?
Monsieur le secrétaire général, merci.
Entretien avec Christophe Boisbouvier. Votre chronique matière première sur RFI, c'est un objectif soutenu par de nombreux pays occidentaux. Réduire leur dépendance envers la Chine et les minéraux critiques comme le cobalt ou le platine en font partie, ces matières premières très utilisées dans la fabrication de certaines technologies. Or, la Chine contrôle une grande partie de ces filières, mais la France ou encore le Canada tentent de faire face en accélérant leur coopération dans le domaine. Marie-Pierre Olfan.
Il a été nommé il y a 2 ans, mais prépare déjà son 5e voyage au Canada. Les déplacements outre-Atlantique du délégué interministériel français chargé des approvisionnements en minerais et métaux stratégiques illustrent la volonté des deux pays d'avancer main dans la main pour mieux préparer la transition énergétique. Et s'il fallait une autre illustration, on pourrait parler du séjour cette semaine en France, dans la capitale, de plusieurs sociétés canadiennes venues chercher des partenaires français pour aller encore plus loin dans l'innovation. Car l'innovation permet d'être plus compétitif, de développer des filières minières et métallurgiques plus respectueuses de l'environnement et tout simplement de gagner du temps. Par exemple, réduire de 5 à 2 ans les délais de prospection. Aujourd'hui, les projets sont trop longs à mettre en œuvre vis-à-vis des besoins de la transition énergétique et ces problèmes de calendrier risquent d'entraîner un décalage entre l'offre et la demande dans les années qui viennent. Les Européens sont en retard et ils le savent, la production minière augmente sur tous les continents, sauf en Europe. Les acteurs majeurs dans l'extraction sont souvent chinois, rarement européens. C'est aussi vrai pour le raffinage, d'où la volonté de l'Europe de réduire cette dépendance vis-à-vis de la Chine. L'objectif est le même pour le Canada, qui affiche une ambition beaucoup plus grande, celle de devenir un leader mondial dans la production et la fourniture de minéraux critiques. La richesse du sous-sol canadien n'est plus approuvé. Le pays produit plus de 60 minéraux et métaux et possède d'importantes réserves de terres rares. Pour aller plus loin, le Canada a posé des actes forts. En 2022, le pays a simplifié les procédures administratives et mis en place des incitations fiscales afin d'accélérer le développement de nouveaux projets miniers.
Marie-Pierre Olfon pour la chronique Matières Premières. Le plastique Odyssée est un bateau laboratoire de 39 mètres qui arpente les mers du monde entier en quête de solutions pour réduire la pollution plastique. À son bord, des machines pour transformer le plastique en matériaux de construction ou en mobilier. À l'occasion d'une longue escale en Polynésie française, le navire s'est particulièrement intéressé à la perliculture, activité qui représente la 2e économie du territoire après le tourisme et devant la pêche, une activité juteuse aussi qui ne produit pas seulement des perles, mais aussi de nombreux plastiques. Plastique Odyssée, perles en plastique, c'est un grand reportage de Margot Bédé avec Quentin Pommier. En voici un extrait.
On va sortir le moule carré. Vas-y, lève-le.
Moi, je suis Maxime Tiroin. Je suis ingénieur sur l'atelier embarqué de Plastique Odyssée.
Oulala, les gars, il y en a qui arrivent.
On vient de réceptionner les déchets perlicoles de Dominique. Et là, on va commencer ce qu'on appelle le pré-traitement de ces déchets, c'est-à-dire qu'on va essayer de les broyer. Donc en ce moment, on est en train de commencer avec les grillages. On pré-découpe les grillages en petits morceaux de 30 à 50 cm qu'on va mettre ensuite dans le broyeur. Et là, on a fait déjà une heure de broyage et on voit déjà les résultats. On voit que c'est le rendu, c'est pas une matière qu'on a l'habitude de travailler, c'est un rendu assez effiloché. Normalement, on a des broyats très solides, très rigides. Là, c'est un mix entre du plastique rigide et souple. Du coup, ça s'effiloche pas mal avec les lames de notre broyeur. Mais ça reste quand même une matière qu'on peut travailler. Donc la suite des événements, là, ça va être de transformer cette matière avec l'extrudeuse et voir ce qu'on peut en faire, si on arrive à faire des planches, des profilés et derrière réussir à fabriquer des meubles avec ces anciens déchets perlicoles. On a un sacré enjeu parce que là on a fait le tour des atolls pour rencontrer les perliculteurs. Mais le but aussi, c'est d'arriver à Tahiti avec des solutions clés en main, on va dire, où on peut dire à tous les acteurs de Tahiti qui sont impliqués dans la valorisation de ces déchets perlicoles, que l'on peut recycler ces déchets, qu'on peut les valoriser et en faire des matériaux avec une nouvelle vie. Du coup, oui, il y a pas mal d'enjeux, on fait pas mal de tests à bord. Et là, arrivé à Tahiti, ça va être un peu le rendu final avec les différentes solutions qu'on aura réussi à trouver et aussi comment adapter derrière cette chaîne de recyclage d'une manière semi-industrielle pour qu'on puisse trouver des entrepreneurs et derrière, eux, arrivent à monter un centre de recyclage semi-industriel.
Perles en plastique, Plastique Odyssée, un grand reportage de Margot Bédé à retrouver sur RFI à 11h10, temps universel, et à 19h40 TU ou sur notre application RFI Pure Radio.
Appelez-nous, exprimez-vous. Nathalie Amar.
Comment mettre fin au fléau de la pollution plastique? Un traité mondial est à l'étude cette semaine en Corée du Sud. Alors qu'en Afrique, certains pays ont déjà interdit l'utilisation des sachets à usage unique, les lois ne sont pas toujours appliquées. Et vous, pouvez-vous vous passer du plastique?
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité tout à l'heure avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
RFI.
Tout à l'heure sur RFI, de vive voix, Pascal Paradou.
À la lisière d'une forêt dans les Vosges, un pianiste célèbre rend visite à une écrivaine solitaire. Le temps de vivre une passion platonique et de s'enchanter de la nature environnante, Il neige sur le pianiste est le nouveau roman de Claudie Hunsinger, un éloge vibrant de l'art et du vivant.
Écoutez de vive voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.